Chapitre 7. À la manière de Victor Hugo. Sommaire. Extrait comparé. Les images bibliques. Les anges. Une citation de l'ombre sépulcre. Défaut commun. Nous nous sommes étendus assez longuement dans le chapitre précédent sur la philosophie des tables, dans ce qu'elle offre de ressemblance avec la pensée antérieure du poète-philosophe. Je voudrais étudier ici plus spécialement leur style. J'y retrouve la manière, les manies de notre poète. Le fossoyeur jette sur le cercueil la terre, le mort est seul, qu'en est le doux matin. Ils sont la chevelure affreuse des racines entrées dans son cercueil. Les contemplations, pleurent dans la nuit, 30 avril 1854. C'est l'heure où le jour naît, dans la tombe ou dans l'ombre, le cadavre enterré par le fossoyeur sombre, sans que le ver le mord. Vers du lion d'Androclès, séance du 9 mai 1854. Nous sommes au cachot, la porte est inflexible, mais on entend le trousseau des clés mystérieuses sonner confusément. Les contemplations pleurent dans la nuit, 30 avril 1854. Forçats et maudits écoutaient, entrez tout doucement dans la porte des bagnes, la clé des paradis. Vers du lion d'Androclès, séance du 9 mai 1854. J'y vois fleurir en particulier toutes ces images sacrées tirées de l'écriture que je signalais en 1910 dans mon étude « La Bible dans Victor Hugo ». En 1910, c'est-à-dire à un moment où les tables de Jersey n'ayant pas paru, je ne connaissais pas encore leur littérature. Leurs discours sont émaillés des images familières du poète. L'échelle de Jacob, Babel, Andorre, le fumier de Job, Sinaï, le Tabor, le Calvaire. La lutte de Jacob avec l'ange, Genèse, chapitre 32, verset 22, était, depuis 1840, un des symboles auxquels Hugo recourait le plus volontiers pour exprimer l'antagonisme de la matière et de l'esprit. Or, Jacob lui-même s'exprimait ainsi à Jersey le 22 janvier 1854. C'est le combat de l'homme contre le monde invisible, c'est le pugilat du corps contre l'âme, c'est le duel de la chair avec l'esprit, c'est le sombre champ clos du doute, c'est la lutte éternelle de Jacob avec l'ange. Les tables tournantes de Jersey, page 140. Une autre métaphore biblique tirée de Job, à laquelle Hugo marque depuis 1830 une faveur persévérante, est celle de la mer sondée et de la pêche des perles. Or, les tables de Jersey affectionnent aussi cette image. Elles s'en servent à plusieurs reprises. La voici par exemple utilisée par la critique. Vaquerie. Quand je t'ai demandé de caractériser Shakespeare, tu as dit « plongeur de l'âme ». Veux-tu nous développer ce mot ? La critique. L'âme humaine, avant Shakespeare, était une mer insondée. Échille avait eu tout de la mer. Tout, excepté la perle. Shakespeare a plongé et il a rapporté l'amour. Séance du 19 septembre 1853. Répondant aux reproches d'user de termes bibliques, l'ombre du sépulcre avait dit entre autres choses « L'ombre du sépulcre n'a pas d'aile. L'ombre du sépulcre n'est pas un ange comme l'Église les voit, en robe blanche et une palme dans la main. » CF plus loin, page 62. Or, justement, les anges de Hugo portent des objets symboliques, palmes, gerbes, clèves, glaives et bâtons, comme ceux de Saint Jean portaient des verges d'or, Apocalypse, chapitre 21, et comme ceux auxquels l'ombre fait allusion. Je vis alors que l'ange tenait une palme. Ils tiendront. Des rayons frissonnants, semblables à des palmes, la palme, cette flamme, faite d'azur, frémit devant des mains sanglantes. Ils riaient et portaient toute la terre en gerbes. Tous ont des mains pleines de gerbes. Ils tenaient les morceaux d'un glaive dans ses mains. Ils tenaient des bâtons comme font les consuls. L'ombre du sépulcre, à laquelle d'ailleurs se rattache par tant de liens la bouche d'ombre des contemplations, plaide sa cause littéraire dans le style du futur William Shakespeare hugolien. Voici un spécimen de sa manière, dans laquelle on est forcé de reconnaître une imitation, et même chargée, venant d'un moins grave personnage, nous dirions une charge, de la prose littéraire de Hugo. Imprudent, tu dis, l'ombre du sépulcre parle le langage humain. Elle se sert des images bibliques, des mots, des figures, des métaphores, des mensonges pour dire la vérité. L'ombre du sépulcre n'a pas d'aile. L'ombre du sépulcre ne tient pas de livre ouvert devant Dieu. L'ombre du sépulcre n'est pas un ange, comme l'Église les voit, en robe blanche et une palme dans la main. L'ombre du sépulcre n'est pas une mascarade. Tu as raison, je suis une réalité. Si je descends à vous pour parler votre jargon, où le sublime consiste en si peu de tempêtes, c'est que vous êtes limité. Le mot, c'est la chaîne de l'esprit, l'image, c'est le carcan de la pensée. Votre idéal, c'est le collier de l'âme. Votre sublime est un cul de basse fosse. Votre ciel est le plafond d'une cave. Votre langue est un bruit relié dans un dictionnaire. Ma langue, à moi, c'est l'immensité, c'est l'océan, c'est l'ouragan. Ma bibliothèque contient des milliers d'étoiles, des millions de planètes, des millions de constellations. L'infini est le livre suprême et Dieu est le lecteur éternel. Maintenant, si tu veux que je te parle dans mon langage, monte sur le Sinaï et tu m'entendras dans les éclairs. Monte sur le calvaire et tu me verras dans les rayons. Descends dans le tombeau et tu me sentiras dans la clémence. Sublimes ou non, en vers ou en prose, tous ces discours sont longs, implacablement. Le lion d'Androclès, l'ânesse de Balaam, ouvrent une carrière si libre à leur rhétorique démuselée qu'ils nous font penser à l'âne du poème. Un humain pourtant l'emporte en verbosité sur cet animal. C'est Shakespeare. Il abuse quand il occupe le trépied. Il dispute à l'ombre du sépulcre le record de la longueur pour le sublime. Mais voilà encore un nouveau trait de famille. Cette arborescence, cette redondance, cette outrance verbale, cette éminence hugolienne, il sera dit que le poète en impose tellement à ses hôtes mystérieux qu'il reproduit jusqu'à ses défauts et qu'il les amplifie. Décidément, la table de Jersey est un miroir grossissant. C'est une table de multiplication.